Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Luc Tour, Jérôme Roten.
19h01 sur RMC, on est là, on est bien la deuxième heure de Roten sans flamme de ce vendredi soir. Et qui dit deuxième heure de Roten sans flamme du vendredi soir, c'est le multiplex Ligue 1. Oui, dans un instant, on va retrouver tous nos correspondants avec Manu Petit, avec Jean-Louis Tour. Ça va être génial, on va passer un grand moment, encore une heure avec vous, en votre compagnie. Et puis après, le week-end, on vous laisse tranquille et on se retrouvera à partir de lundi pour encore une fois une émission exceptionnelle, plein de surprises la semaine prochaine, Jean-Louis.
Oui, alors on vous laisse tranquille, oui et non, parce que le week-end, c'est le moment où il faut tout podcaster.
Ah bah oui.
Vous allez pouvoir podcaster Mehdi Benatia en première heure.
Ça, c'était bien.
Vous allez pouvoir podcaster le débrief de Barça PSG.
C'était le meilleur débrief du PAF.
Vous allez pouvoir podcaster l'avant Marseille Benfica, les analyses de Jérôme. Ça aussi, ça vaut le coup d'être écouté, même après la qualif de l'OM.
Ouais, ouais. Surtout qu'il y a plein de choses qui me donnent raison.
Donc allez-y, faites ça tout le week-end. Mais dans cette deuxième heure, il y aura le quiz aussi. Avec Julien Cazard, 19h45. Une semaine dans une résidence Lagrange Vacances à gagner. Vous envoyez top au 732-16 pour vous inscrire. Mais tout de suite, on lance la 30e journée de Ligue 1.
RMC, Roten sans flamme.
Et but !
Et troisième but !
Emmanuel Petit.
Emmanuel
Petit, extraordinaire.
Il va le mettre.
Emmanuel Petit. Ouais.
Ouais. C'est gagné pour l'équipe de France.
Emmanuel Petit.
C'est dingue.
Quelle émotion.
Ah, il est
qu'est-ce que tu as donné comme émotion.
6 buts dans ma carrière, ça fait de l'effet. Hein.
Ça, c'est pas des buts en Ligue 2, là. Hein. C'est pas des coups francs.
Il y en a qui marquent 20 buts dans la saison qui comptent pas. Et voilà. C'est vrai. Mais il y en aura d'autres, ouais. Des commentaires, parce que là, c'est toujours le même. Il y a celui-là. Ah,
excuse-moi, c'est la finale de Coupe du Monde. Hein.
Oui, oui, ben d'accord.
C'est pas un match contre les PTT d'Hilal dimanche matin. Tu vois ce que je veux dire.
Et tu respectes mon but en équipe de France contre les îles Féroé, s'il te plaît.
Bah, c'est vrai que c'est un but en équipe de France.
Ah oui, non, pas. Pourquoi ça me rappelle.
Non mais oui.
Ça te rappelle quoi?
Non mais tu rigoles en
les
plus.
Féroé, ouais. Ça me rappelle en fait les dessins animés avec les dragons là.
C'est-à-dire
les moutons. Non, c'était pas des moutons sur le terrain.
C'est, bon,
c'est vrai qu'il y en avait un ou deux qui ressemblaient à un mouton, mais.
La 30e journée de Ligue 1, on y va tout de suite avec nos correspondants comme tous les vendredis. Jean Baumel dans le Nord, salut Djibo.
Salut Jean-Louis, Jérôme.
Salut
Manu,
Djibo.
Bonsoir à tous.
Il a fait des cauchemars de Dibou Martinez toute la nuit. On va parler de Lyon qui se déplace au parc dimanche avec Edouard G. Salut Edouard.
Ah oui, il faut bien penser aux audiences.
Oui, on pense aux audiences, exactement.
Salut Edouard.
Salut Manu.
Salut.
On va parler des cadres à Lyon puisque c'est un discours de la Lacazette qui a remobilisé tout le monde dans cette saison.
Non,
c'est ce que tu dis Jérôme depuis le début de l'année, que Lyon s'en sort grâce à ses cadres. Et puis Maxime Tilliette sur la Côte d'Azur est là. Salut Maxime.
Exactement, salut à tous.
Maxime. Bonsoir, bonsoir.
Un gros Brest-Monaco pour toi, notamment. Et Nice-Lorient.
Nice-Lorient, allons, Nice-Lorient.
Nice-Lorient, mais Brest-Monaco quand même.
Bien sûr.
Pour la Ligue des Champions. On parlera de l'absence de Golovin avec toi, notamment. Ouais. Mais on va commencer sur l'info toute fraîche, la réorganisation du calendrier. Alors, ça y est, la Ligue a communiqué. Donc, les deux matchs prévus entre la demi-allée et demi-retour de Coupe d'Europe sont donc décalés, comme là pour les quarts de finale, pour laisser plus de temps à Paris et Marseille donc de se préparer. Donc, Reims-Marseille et Nice-PSG, qui comptent pour la 32e journée de Ligue 1, ont été déplacés au mercredi 15 mai à 21h. Ça, c'est simple. Donc, c'est entre les deux dernières journées. L'avant-dernière journée de Ligue 1 va également être impacté puisqu'il n'y aura pas tous les matchs en même temps finalement. Ils ont décidé d'avancer deux rencontres pour pas que ça fasse un enchaînement trop important pour les adversaires de Marseille et de Paris. Donc Brest, Reims et Nice-Le Havre, qui comptent pour l'avant-dernière journée de Ligue 1, seront pas avec tous les autres matchs, mais le vendredi, donc deux jours avant. Voilà, ça c'est les aménagements du calendrier. Alors, est-ce que la Ligue 1 est faussée par ces reports? Écoutez d'abord Éric Roy, l'entraîneur de Brest, qui donc comprend pas ces décisions.
Juste, pas juste, j'en sais rien. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'en France, qu'on fasse ça, quoi. On est toujours, nous, on est toujours un petit peu, je sais pas, différent des autres, peut-être, je sais pas. Mais bon, je vois que les Anglais, ils jouent, les Espagnols, ils jouent, les Allemands, ils jouent. Ils jouent les Coupes d'Europe. À partir du moment où t'es qualifié pour une Coupe d'Europe, tu prépares ta saison aussi par rapport à un calendrier. Surtout qu'en France, on nous a vendu le fait de réduire le championnat à 18 clubs pour avoir moins de matchs. Et donc, peut-être, du coup, être plus performant, nous enlever une Coupe nationale aussi dans cet objectif-là. Donc, on a fait tout ça et on aménage encore les choses. Donc, bon.
Voilà, match reporté. Dans vos clubs, ils en ont parlé aujourd'hui, Edouard, Maxime.
Pour Pierre Sage a eu la même réponse que la semaine dernière, c'est-à-dire que c'est bien pour les clubs français, mais que si nous, je parle de, en tant qu'entraîneur de l'OL, on était dans la situation par exemple d'un Lorient la semaine dernière qui avait son match déplacé et que ça l'oblige à jouer 3 matchs dans la semaine, ça pourrait un petit peu poser problème. Mmh. Donc une réponse un petit peu de normand pour Pierre Sage. Oui.
À Lille, en tout cas, Fonseca était très heureux de bénéficier le week-end dernier du report du match contre Monaco. Il remerciait même la Ligue officiellement devant tout le monde en conférence de presse. Et je pense que si ça devait, s'il y était passé hier soir pour affronter Olympiakos, ils auraient été très contents, de pouvoir souffler. On a vu d'ailleurs,
Nice,
sur le match d'hier d'ailleurs.
À Nice, tu voulais dire, Maxime?
Oui, à Nice, c'est vrai que on grinçait un peu les dents quand même d'avoir cet enchaînement une nouvelle fois de 3 matchs dans la semaine avec la réception du Havre, aller à Paris, enfin recevoir Paris, puis aller à Lille sur la dernière semaine du championnat. Finalement, le gym a demandé à ce que le match face au Havre soit avancé de 48 heures, ce qui permet quand même d'alléger un petit peu cet enchaînement de matchs et pas non plus trop fausser cette saison. Puis à Monaco, Hutter, lui, comprenait totalement, en espérant d'ailleurs être parmi les Européens la saison prochaine et qui bénéficierait peut-être aussi de ces aménagements.
Jérôme, c'est n'importe quoi. Ces modifications ou tu les comprends?
Non, moi je suis sur la même.
Est-ce que le championnat est faussé?
Non, je suis sur la même ligne. Je n'irai pas jusqu'à dire c'est faussé. Je dirais juste que c'est surprenant parce qu'en effet, on est les seuls pays là encore concernés par la Coupe d'Europe à faire ça. Donc il faut se demander pourquoi on le fait. On a viré la Coupe de la Ligue. Je suis assez d'accord avec Eric Roy. On a viré 2 clubs de Ligue 1 pour passer à 18. À 18 clubs, à l'arrivée, il y a toujours un problème de calendrier. Déjà, il faut anticiper. Si vous voulez respecter les Coupes d'Europe, faites le calendrier en fonction des quarts de finale, des demi-finales, voire des finales. Mais aujourd'hui...
Il y a eu un paquet de semaines sans match.
On a quand même l'impression qu'ils n'avaient rien anticipé, comme d'habitude, qu'ils se sont dit... Oh, demi-finale de Coupe d'Europe. De toute façon, on n'en fait quasiment jamais. Donc, au pire, il y aura une équipe et on s'adaptera. Mais alors là, ils sont surpris parce que ça a failli être 3. Mmh. On en parlera tout à l'heure avec Djibo. Il y en a 2 à l'arrivée. Déjà, sur les quarts de finale, c'était problématique. Donc là, demi-finale. Non, franchement, c'est... Moi, j'ai...
Mais en plus, tu dis, c'est pas forcément faussé. Mais si c'est faussé, Jérôme.
Mais non,
d'habitude, on met les 2 dernières journées de championnat ensemble, avec tous les matchs en même temps. Parce qu'on considère
pour
que.
Pour éviter les arrangements.
Voilà. Que ça... Et que tout le monde doit avoir le même niveau d'information et pas savoir que ton adversaire direct a déjà fait match nul, etc. Là, ce sera pas le cas cette année.
Moi, je vais même pas là-dessus. Je trouve
ça. Et tu devrais, parce que c'est choquant aussi.
Non, mais d'accord. Mais moi, déjà, ce qui est choquant, c'est des clubs qui sont donc pas concernés par la Coupe d'Europe, mais qui jouent des équipes qui sont, eux, qualifiées pour les demi-finales. Donc, vont voir leur match décalé. Ils vont pas jouer un week-end. Les adversaires, ils jouent. C'est problématique à préparer. Ça, c'est sûr. Dans l'aménagement. Tu sais, quand tu passes 15 jours sans jouer ou 10 jours sans jouer, c'est aussi problématique dans cette période-là quand tu es habitué à jouer un match par semaine.
Bah oui.
Donc rien que pour tout ça, tu respectes pas le plus petit qui joue le maintien. Et tu avantages ceux qui jouent la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, c'est la rançon de la gloire. Et tant mieux pour les équipes qui sont demi-finalistes et j'espère finalistes bientôt. Mais ils ont un effectif. Ils sont là pour quand tu vises la gagne en Coupe d'Europe, c'est en général que tu as un effectif qui est important. Et à l'arrivée, quand tu regardes, et c'est pour ça que j'en veux un petit peu à la Ligue aujourd'hui, c'est que le PSG. Ils vont être champions de France.
Mais oui.
Donc s'il y avait eu des matchs pas décalés et qu'il faut faire tourner, il le fait depuis maintenant 4-5 journées.
Il y a même eu des présidents qui sont montés en
compte. Voilà, donc il le fait, donc il aura continué à le faire. Luis Enrique, ce n'est pas un problème. L'Olympique de Marseille, on en a parlé tout à l'heure avec Mehdi Benassia, et c'est Manu qui faisait la référence à ça. Ils sont à 10 points de la Ligue des Champions à 6 journées de la fin, mais c'est mort. Mmh. Donc il ne faut pas non plus soyez la face. L'OM, s'ils sont fatigués, les organismes, bien sûr, avec ce qu'ils ont donné hier, ils font jouer une équipe de jeunes, c'est pas grave. Au pire, tu vas perdre à Toulouse. Est-ce que c'est problème? Et tu
Manu,
vas perdre le match d'après.
Ça te choque ce que fait la Ligue?
Moi, ça fait longtemps que ça me choque plus de ce qui provient de la Ligue. Le dernier débat qu'on a fait, c'était sur le naming, justement, avec la malbouffe.
Ah oui, mais la Ligue à McDonald's.
Donc moi, ça me dérange pas.
Jérôme m'avait défendu.
Ça me dérange pas parce qu'en fait, ils sont cohérents dans ce qu'ils font, en fait. C'est-à-dire, ça anticipe pas, on est dans l'urgence en permanence, on prend des décisions au jour le jour, il n'y a pas de planification et ça montre, en fait, quelque part, un manque de confiance des clubs français d'être performants en Coupe d'Europe. en ayant supprimé autant de compétitions pour pouvoir alléger et donner des phases de récupération au club et aux joueurs, ben on s'aperçoit finalement, ben non, il y a embouteillage et que quelque part, pour aider les clubs français à gagner des points UEFA et pour permettre aux autres clubs français d'en profiter, eh ben on aménage des choses qui peuvent remettre en cause l'équité en fin de saison. Et vous... Donc moi, ça ne m'étonne pas. Moi, en tout cas, je comprends ce que dit Eric Roy. Je suis à fond derrière ce qu'il a dit, mais je pense qu'Eric aussi, il oublie une chose, et t'oublies toi aussi, Jérôme, une chose.
Dis-moi.
C'est que la fin de championnat, ce sont que des intérêts personnels et privés, en fait, qui s'imposent au détriment de l'intérêt collectif. La Coupe d'Europe, c'est un intérêt à la fois privé, mais également collectif, qui peut bénéficier à d'autres clubs. Donc, quelque part, moi, c'est le bien de la communauté qui, pour moi, devrait l'emporter sur les intérêts
privés. Mais on les a joués, Manu, ces matchs-là. Moi, c'est ça que je comprends pas. Parce que, alors après, le foot, il a changé tout ce que tu vois. Qu'est-ce qu'on n'entend pas, de toute façon? Il y a plus de matchs. Non, il y avait plus de matchs avant. Oui, oui, oui. À notre époque, il y avait plus de matchs parce qu'il y avait deux coupes, parce qu'il y avait 20 clubs, il n'y en avait pas que 18, et des matchs de Coupe d'Europe, c'était la même chose, hein, les phases de poule et après élimination.
Mais tu penses que ça peut fausser l'équité en fin de saison?
Mais pourquoi, oui. Pourquoi
si le PSG fait tourner, si je qualifie en Champions League, en finale, ils vont faire quoi?
Pourquoi on ne le faisait pas avant? Manu, je te pose la question, pourquoi on ne l'a pas fait avant?
Ah mais là-dessus.
Alors donc pourquoi les autres clubs ne le font pas?
Ah mais on est complètement d'accord. Bah voilà, c'est pour ça que je comprends Eric.
Et ça les empêche d'exister en Coupe d'Europe? Non. La preuve, c'est que nous, c'est même surprenant d'avoir deux clubs en demi-finale, ce qui ne devrait pas être une surprise, mais c'est surprenant. Donc, à l'arrivée, contentez-vous.
Il n'y a pas d'anticipation.
Vous savez qu'il n'y aurait pas eu d'affaire au MVR si on avait appliqué le même truc? Hop, le match de Valenciennes avant la finale de des clubs champions, reporté, et il n'y aurait pas eu de problème à l'époque. Hein.
C'est vrai.
Et oui. Voilà.
Non, je vous dis rien, moi.
Allez, dans une seconde, on reprend le multiplex.
Bon, ça serait pas tombé sur Valenciennes, quoi.
Sur les autres. Voilà. Est-on mauvais perdant avec Martinez? Olivier Létan est-il mauvais perdant puisqu'il s'est plaint? Alors ils sont plusieurs à s'être plaint du comportement de Martinez hier lors de l'élimination de Lille face à Aston Villa.
C'est génial.
Le débat dans une seconde, à tout de suite.
RMC 18h-20h Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h14 sur RMC. On est là, on est bien. On continue notre multiplex Ligue 1, pardon, avec Manu Petit, avec Jean-Louis Tour, avec tous nos correspondants qui nous lancent cette prochaine journée de championnat de Ligue 1 qui commence ce soir avec ce Nice-Lorient. Jean-Louis,
on est avec Edouard G, Maxime Tilliette et Jean Baumel. On va parler de l'absence de Golovin tout à l'heure, des cadres lyonnais, mais d'abord Martinez. Dibou Martinez a recommencé après nous avoir dégoûté en finale de la Coupe du Monde. Il a donc dégoûté Lille lors de la séance de tir au but. Et Olivier Létan, Djibo, le président, a dénoncé son attitude. Elle n'est pas celle d'un sportif de haut niveau. Dans la défaite comme dans la victoire, il faut rester calme et élégant. Bon, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il a sorti Lille, hein, Martinez.
Oui, c'est vrai. Et puis, il y a aussi en substance la main non sifflée pour le LOSC dans la surface de réparation qui, pour eux, était un pénalty. Hein. Ensuite, il y a aussi ce but de fin de match où ils étaient pas contents que l'arbitre ne siffle pas parce qu'ils estiment qu'il y a faute, une poussée sur Benteleb, justement, qui va sur Lucas Chevalier. Donc, il y a un peu tout ça. Et le gain de temps aussi qu'il prenait Emiliano Martinez. Mais on sentait aussi que Aston Villa n'était pas très bien dans ce match. Et lui, quelque part, il a cassé le rythme en permanence parce qu'ils ont peut-être fait un gros match contre Arsenal en jouant eux dimanche dernier. Et ils avaient peut-être moins de fraîcheur que Lille. Mais on sentait que Emiliano Martinez voulait gagner du temps en permanence. D'ailleurs, il a pris un carton jaune pour abus sur ses dégagements de gain de temps. Mais voilà, après, il est un peu rentré dans la tête des joueurs lillois. Et puis, la chose qu'il voulait, lui, c'était arriver à la séance de tir au but. Et puis, il a fait exactement. Il a tout simplement fait des petites danses, il a discuté avec les tireurs lillois, il a tenté plein de choses pour les déstabiliser.
Il n'a rien fait de répréhensible non plus.
Après c'est comme tout, s'il était à Lille, on serait peut-être tous contents qu'Emiliano Martinez qualifie Lille en demi-finale. Je pense qu'on ne peut pas comparer avec la finale de la Coupe du Monde parce que c'est la célébration après, lors de la Coupe du Monde, qui était embêtante. Là, sur le match, c'est sûr que ce n'était pas un grand match d'Aston Villa. Lui, il n'a pas non plus. On a été déçus d'Aston Villa. Et lui, il en est pour beaucoup. Mais il a fait son boulot. Il n'y a rien de répréhensible sur sa prestation.
Oui, sauf que moi, il y a quelque chose. Alors, moi, je veux bien qu'il soit dans l'échange avec le public. À mettre le doigt sur sa bouche, à échanger avec certains joueurs. Mais sur la séance de pénalty, de tir au but, je suis désolé, mais je trouve ça irrespectueux au possible de jouer à tout, tu sais, de faire la petite danse, de mettre du temps à te mettre dans les buts par rapport au tireur, à lui tirer la langue, à lui ceci cela. Tu vois, on a vécu ça dernièrement sur les séances de tir au but de Rouen. Rappelle-toi le gardien de Rouen,
oui, remplaçant, exactement,
qui a fait la même chose. Mmh. Je trouve que c'est un manque de respect total. Pourquoi tous les gardiens ne font pas ça alors? Pourquoi les exceptions, elles sont là,
ouais, et
elles
pourquoi en parler. Vouloir à ceux qui le font,
non, parce
est-ce
que,
qu'on n'assistise pas aussi que, le, non, le poste en voulant que les mecs ne bougent pas, etc.
Ils ont...
Déjà que Jérôme, techniquement, on leur met des boulets aux pieds. Hein. Ils peuvent plus s'avancer, ils sont obligés d'avoir les pieds collés, d'accord. C'était des avantages pour eux, ils essaient peut-être cela de compenser.
Okay. Non mais je suis d'accord avec toi Jean-Louis, et c'est plus compliqué, du moins c'est même pas plus compliqué parce qu'on a, tiré des pénalties avec Manu, des pénalties importants, la pression, elle est plus sur le tireur que sur le gardien, parce que le gardien, s'il le prend, le pénalty, on va pas lui en vouloir, tu vois.
Oui, oui. Bah, donc, c'est plus dur donc, quand même maintenant donc, avec la règle du pied sur la ligne.
Je te dis pas que c'est plus facile ou plus dur ou ceci cela. Je dis juste que il y a une façon de respecter ton adversaire. Voilà, il y a le côté chambrage, tout ça, et je suis bien placé pour en parler parce que je jouais beaucoup de ça et je continue.
Donc pourquoi là ça te pose un problème?
Oui, j'aurais bien aimé de voir tirer un pénalty sur Martinez.
Oui, parce que lui il va au-delà, Jean-Louis. C'est même plus du chambrage, Non, c'est pas du chambrage. Quand tu viens emmerder,
quand tu dis à ton arrière droit qu'il est nul et tout sur un match, c'est la même chose.
À mettre du temps à être dans les buts, à prendre le ballon, à le mettre 3 mètres à côté pour qu'il fasse l'effort de y aller, limite de faire un trou comme Paulo Lopez quand il tire les séances de tir au but. Alors Ia l'a pas fait et à l'arrivée, tant mieux pour lui, il a été grand. Mais dernièrement, rappelle-toi la séance de tir au but à Rennes où Marseille se fait sortir. Il a été infect avec les tireurs. Il venait coller, il mettait le ballon sur le point de pénalty. Il était collé à eux, limite, en train de faire un trou. Okay. Non, mais ça, pour moi, c'est
déplacé.
C'est déplacé, c'est un manque de respect. Après, le reste, son attitude, tout ce que tu veux, il est comme ça. Il se fout de la gueule des gens. Il déteste les Français, mais qu'il assume jusqu'au bout. Lui, le problème, c'est qu'en conf de presse, je l'ai entendu après, il assume pas. Il dit, j'ai rien contre les Français. Si, mon coco, dis-nous que tu as une dent contre nous pour X raison, la Coupe du Monde, la finale, ceci, le cela. Ok, on accepte.
Ouais.
T'es l'ennemi public numéro un le jour où tu reviendras encore en France. Il n'y a pas de problème, mais assume-le.
Manu, toi, t'es d'accord avec Jérôme, il manque d'élégance?
Bah, c'est pas nouveau, hein. Je veux dire, rappelle-toi sa célébration au mondial. Il y avait, je crois, l'émir du Qatar derrière.
On parle pas de la célébration, on parle sur la séance de tir au but.
Non, mais rappelle-toi après, lorsqu'il est revenu à Buenos Aires.
Non, mais Manu, sur les célébrations, on sera tous d'accord.
Non, mais de Mbappé, tout ça, il est à fond dans la provoque.
Ça, là-dessus, on sera tous d'accord. Mais sur la séance de tir au but, rentrer dans la tête des tireurs en faisant tout ce que Jérôme a décrit.
Ah, là-dessus, il n'y a aucun souci. C'est pour ça que.
Jérôme, ça te gêne?
Bah non, il y a beaucoup de gardiens aussi qui ont un petit peu leur mimique, leur façon de faire, ils bougent, ils lèvent les bras, ils respectent pas, l'arbitre vient le voir une fois, deux fois, trois fois, c'est pas le seul gardien à faire ça, donc il joue aussi un poker menteur avec le tireur qui leur en
fait. Ça c'est le jeu pour toi.
Oui, ça fait partie du jeu, il répond aux provocations aussi du public, machin, tout ça. Après, il y a des choses qu'il peut s'abstenir de faire aussi sur un terrain, quoi. Moi je l'ai vu à maintes reprises, je le vois aussi en PL, et bizarrement en PL il est beaucoup plus calme avec l'équipe nationale ou lorsqu'il joue sur les joutes européennes, parce qu'il sait qu'il se sait très regardé.
Moi hier j'ai trouvé plus calme
qu'il va se faire défoncer. Exactement. Donc quelque part, moi c'est pas ma tasse de thé Martinez, donc
D'accord.
Je remets pas en question ce qu'il a fait sur la séance de pénalty. Je remets en question son comportement. Ça fait pas, c'est pas d'aujourd'hui et ça fait pas d'années que ça dure. Et
d'ailleurs vous avez vu la petite règle que personne ne connaissait quasiment, c'est le deuxième carton jaune qu'il a pris. On pensait qu'il allait prendre un rouge lors de la séance de tir au but et en fait l'arbitre lui a mis un jaune. Mais depuis la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, eh bien, une fois arrivé à la séance de tir au but, les cartons sont remis à zéro. Et donc, c'est vrai que même Olivier Létang était surpris parce qu'il il était voir le quatrième arbitre en disant, mais c'est pas normal, il doit avoir un rouge, sa deuxième jaune. C'est une règle qu'on ne connaissait pas. Et lui, je pense qu'il la connaissait parce que je pense pas.
Bah bien sûr.
Mais voilà,
c'est vrai, ça. Quand t'arrives au pénalty,
c'est nouveau. Ouais.
Bah sinon, parce que c'est sinon, pas la continuité du match, le pénalty.
Par contre, c'est suspendu en demi-finale pour le match aller.
C'est sans doute dans l'esprit, ça va pas ce que tu dis, mais c'est ça la règle. Sinon, Martinez,
c'est qui pond des règles aussi bêtes.
Bah, sinon, il aurait pris rouge hier.
Celle-là, elle est complètement bête.
Mais ça fait partie du match, non? On est d'accord?
Bien sûr.
Et bah alors, pourquoi tu le sépares du reste du match?
Tu as raison. Parle-en à Arsène Wenger, qui est à la FIFA.
Je crois que c'est Arsène qui a décidé de changer ça.
Non, je vais pas aller déranger.
19h21, premier tour des stades. Trois infos autour de vos clubs. On commence par Lyon, qui est donc à Paris à 21h. Dimanche, match particulier pour Barcola, qui va retrouver son ancien club. Il a été question de lui aujourd'hui, Edouard.
Oui, Maxence Caqueret s'est dit ni surpris surpris ni bluffé, pas surpris de ce qu'il a fait notamment à Barcelone, parce qu'il a à ses yeux énormément de talent, il sait ce qu'il veut, il est désormais très fort dans ses percussions. Quand je lui demandais un petit peu les progrès qu'il a vus entre ce qu'il voyait l'année dernière à Lyon et aujourd'hui au PSG, et puis pas bluffé Pierre Sage, parce que il faisait preuve d'une intelligence, je cite l'entraîneur lyonnais, dans sa manière d'organiser son jeu par rapport aux partenaires. Il a su mettre ses qualités au service d'une équipe compétitive, voilà ce qu'il fait au PSG, et lui il l'avait déjà vu avec l'équipe réserve de l'OM.
À Monaco pour ce déplacement à Brest dimanche à 17h, bon, on va parler de Golovin dans un instant, mais l'infirmerie est un élément clé de la fin de saison, Maxime.
Oui, parce qu'Alexander Golovin souffre d'une entorse de la cheville, saison normalement terminée. Il y a une autre blessure, c'est celle d'Ismaël Jacobs au genou. Côté positif, on va dire, il y a Caio Henrique qui est de retour progressivement à l'entraînement collectif et qui jouera peut-être quelques minutes en fin de saison. Brelem Bolo, lui, pourrait rejouer quelques minutes dès ce week-end, et il était dans le groupe déjà lors des deux derniers matchs, mais surtout pour déjà retrouver les sensations autour des rencontres et vivre avec le groupe. Mais voilà, les deux dernières blessures, c'est Alexander Golovin et Ismaël Jacobs qui devraient louper cette fin de saison.
À Lens, qui jouera face à Clermont demain à 21h, match très important, et on parle d'un Francaise démobilisé, Djibo.
Non, pas vraiment. Il a voulu justement démentir tout cela hier. Okay. Voilà, clarifier la chose hier en conférence de presse. Bon, c'est vrai que Lens n'a pris qu'un point sur les quatre derniers matchs. Hein. Défaite contre Nice, contre Lille, contre Metz, surtout la semaine dernière. Metz qui a pris 6 points à Lens, même cette saison. Et un nul contre le Havre. Donc, c'est vrai que face à Clermont, demain, les Lensois seront entendus au tournant. Il a clairement dit hier, je ne suis pas fatigué. Je veux une deuxième Coupe d'Europe d'affilée avec les 100 et or. On le sent vraiment, voilà, il a voulu mettre les pendules à l'heure. Et on le sent très, très motivé, pas démobilisé. Parce qu'il y a apparemment beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, j'ai pas tout vérifié, qui sont un peu négatifs à son encontre.
Très bien, voilà pour la mise au point. Dans une seconde, la suite du multiplex. Les cadres lyonnais sont-ils les principaux responsables de la remontée? Et l'absence de Golovin peut-elle plomber Monaco? À tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h28 sur RMC, la dernière demi-heure de Roten sans flamme de la semaine, avec Manu Petit, avec Jean-Louis Tour et avec tous nos correspondants qui nous lancent cette journée de championnat de Ligue 1. On est là avec Julien Cazard aussi dans 15 minutes avec le quiz pour bien finir l'année. L'année. La semaine en beauté, Jean-Louis.
Bah là, on est bientôt à la fin de l'année. Hein. Attends, ça rapproche. On est dans le sprint des championnats.
Mais tu te rends compte l'excitation de deux clubs en demi-finale. On va avoir le championnat. Qui va gagner le championnat de France?
C'est une vraie question.
Qui va gagner la Coupe de France? Qui va gagner l'Euro? Ça va être génial.
Qui va gagner les JO? Bon, plein de questions. On est avec Jean-Baumel, Edouard
G. Où va aller Mbappé?
Maxime Tillet.
Est-ce qu'il va rester à Paris?
Vraie question aussi, effectivement.
Pierre Sage, je crois, non?
Pierre Sage va-t-il gagner le trophée de l'entraîneur de l'année? Aussi, oui. Vraie question.
Hein?
Pierre Sage, il va être nommé entraîneur de l'année, je pense.
Mais il a vu ce qu'il a fait. De la demi-année.
Il a pas fait toute la saison.
T'as vu ce qu'il a fait en une demi-saison? Ça suffit pour les votes. Hein.
Ah, ça suffit.
Il sera dans les quatre, je suis sûr.
Ah, d'accord.
Il se sera mérité. Et tu pourras lui dire.
Et si Jean-Louis Gasset gagne la Coupe d'Europe?
Tu pourras lui présenter des excuses.
Moi?
Par rapport à tout ce que tu as dit sur lui depuis son arrivée.
Ouais, mais Manu, si on fait ça, il y en a trop qui vont s'excuser.
On peut faire le truc que vous avez fait là.
Le grand pardon.
Ouais, le grand pardon.
Mais comment?
Des grandes pardon, excuses, là, on peut faire.
Il faut se fouetter.
Des excuses.
C'est au nom de la rose, tu vois. C'est le mec qui est scouta, scouta. Il se fouette, le mec.
Manu, le problème, c'est que moi, je me mouille. Moi, j'attends pas comme vous la fin en disant.
Arrête de te mouiller, tu vois, parce que ça te va pas.
Pourquoi? Alors, toi, Jean-Louis Gasset, avant qu'il signe à Marseille, t'étais en train de me. Tu m'en
rappelles pas.
Fantastique.
Je veux dire, moi, je donne la chance aux gens. Tu vois,
tu respectes les gens, tu veux dire, toi?
C'est pas ça, c'est que je vais pas le démonter avant qu'il commence. Ça me rappelle l'équipe de France 98, on s'est fait démonter par une partie de la presse avant même de commencer la Coupe.
Après, c'était mérité.
Et après, c'était. Il y a 70 ans, numéro 1, si t'as jamais gagné un trophée.
Calmez-vous, monsieur Rotten, vous avez tort. Vous avez tort.
Comment tort? De quoi?
Son trophée dans fin de l'année sera aussi mérité.
Sors de la piscine, va te sécher.
Arrêtez tous les deux. Jean-Baumel, Edouard G, Maxime Tillet, on reprend notre multiplex et on va parler de Lyon, justement, et de Pierre Sage. Mais finalement, est-ce que c'est pas plutôt les cadres qui sont responsables de cette remontée? Il en a été question aujourd'hui, Edouard.
Oui, avec cette question, quand la saison a bien tourné? Alors, on dit souvent que c'est le mercato à 56 millions d'euros qui a fait la différence, mais quand on a posé la question à Maxence Caqueret, lui, il a rembobiné la saison en mettant deux moments forts en avant. C'était le 3-0 face à Toulouse et les deux victoires consécutives juste avant avant à la trêve, c'était une forme de cadeau de Noël pour tout le monde, puisque les Lyonnais sortaient à ce moment-là de la zone rouge et des 11 fois où ils étaient lanterne rouge du championnat. Et puis, une autre date, le 26 janvier, donc c'est avant vraiment que tous les joueurs du Mercato arrivent, c'était face à Rennes. À la mi-temps, Rennes mène 3-0. Et puis, il y a un certain Alexandre Lacazette qui prend la parole dans le vestiaire. Et ces deux moments clés, Maxence Caqueret, justement, les souligne comme les moments du rebond de l'OL actuel.
J'ai senti vraiment un changement dans le groupe. Il y a eu des discours qui ont été très importants, comme celui d'Alex à la mi-temps contre Rennes, où il nous a motivés, il nous a dit que la saison n'était pas du tout finie et qu'il fallait vraiment s'accrocher. Et je pense que c'est vraiment un tournant de notre saison, parce que après cette première mi-temps à Rennes, j'ai senti vraiment un groupe et un état d'esprit changé. On a retrouvé vraiment une équipe et un vrai groupe.
Et en termes comptables, ça s'est vu, hein. Ouais. 10 matchs, 8 victoires, 17 buts marqués, un seul nul, une seule défaite et puis 9 places gagnées au classement.
C'est un peu ce que tu disais, Jérôme, ce que tu disais déjà à l'époque, c'est grâce aux 4 que Lyon va réussir à s'en sortir.
Ah bah oui, non, mais de toute façon, c'était plus facile de les mettre d'appuyer la tête sous l'eau, de dire voilà, c'est de leur faute, c'est la faute d'un truc, c'est de la faute de Lopez, c'est de la faute de Tolisso, c'est de la faute de Lacazette, c'est de la faute de ceci. Mais pas de la faute des joueurs qui sont autour, qui ne sont pas des cadres et qui sont limités. Je suis désolé, mais ces joueurs-là l'ont montré déjà dans le passé. C'est que la carrière qu'ils ont fait, ils ne l'ont pas inventée. Des matchs, des grands matchs, ils en ont fait beaucoup. Ils ont joué dans des grands clubs aussi, parce que pas qu'à Lyon, pour certains. Et à partir de là, on savait très bien que si Lacazette était mieux dans sa tête, bien mieux entouré, que l'entraîneur en faisait son général, son capitaine, je pense qu'au bout d'un moment, il aurait fait gagner les matchs. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je suis très content, parce que moi, c'est déjà un joueur que j'apprécie. Dans sa vista, je trouve qu'il est sous-coté, trop sous-coté en France. Quand tu vois les stats qu'il a depuis qu'il est revenu à Lyon, et pourtant à un certain âge, en effet, Arsenal, ça ne s'est pas toujours bien passé, mais depuis qu'il est revenu à Lyon, c'est un exemple. Alors oui, les résultats n'ont pas parlé pour lui collectivement. Je pense qu'il n'est pas venu à Lyon pour jouer le maintien, mais ça a été le cas aujourd'hui. Il a sorti la tête sous l'eau et tout seul. Il n'a pas eu besoin de Pierre-Paul ou Jacques. C'est lui, et Pierre Sage a raison de s'appuyer sur lui, parce que la bonne fin de saison, elle peut être exceptionnelle quand même, cette fin de saison, parce s'il gagne un trophée, moi je dirais bravo, et automatiquement il sera le grand responsable de ce trophée gagné.
Ouais, moi je suis un peu plus dubitatif sur ce qu'a dit Caqueret, parce que s'il faut avoir un discours d'un des cadres à la mi-temps d'un match en deuxième partie de saison, fin janvier, alors que tu es dernier du classement, tu t'appelles l'Olympique Lyonnais, que tu as été habitué à jouer les premiers rôles et les premières places, et que tu attends que ce soit un de tes anciens qui prenne la parole pour essayer de te convaincre que finalement on a des années-lumière et des obligations.
C'est pas vraiment ça, on se raconte une histoire quand on dit
ça. Parce que sincèrement, ça veut dire que tu t'es trompé de club en fait. C'est pas Lyon qu'il faut que tu joues en fait. Il faut arrêter de mentir.
Manu.
Donc moi je pense que c'est surtout Sage qui a fédéré tout le monde derrière lui avec son staff. Je pense que c'est lui qui a été l'élément déclencheur, et c'est lui qui connaissait très très bien les joueurs, parce qu'il arrivait justement du centre de formation, et je pense que c'est ça qui a été le lien, le ciment qui manquait dans cette équipe.
Sur son discours, c'est impressionnant.
C'est pour ça, donc moi Caqueret, ce qu'il a dit, je veux bien, mais une remise en question, s'il n'y a pas de remise en question quand tu joues à l'OL, ne joue pas à l'OL.
Edouard Sage au centre de formation, c'est combien de temps?
Alors il y a eu deux temps, il y a eu les 6 mois la direction de l'académie, donc 6 mois, et puis après il y a eu 2 ans et demi où il s'occupait un peu des U16, des U17.
Donc il les connaît depuis longtemps. Bah oui, voilà, c'est ça.
Non mais Manu, moi je veux bien, moi
vite fait Jérôme, parce qu'il y a encore deux trois trucs à dire.
On va pas être d'accord encore, Jérôme. Non mais sur Lyon, je suis pas d'accord avec toi, parce que tu me dis s'il faut un discours et tout ça.
Non mais tu te rends compte qu'aujourd'hui il faut que les joueurs soient convaincus qu'il faut aller.
Non mais attends,
tu changes de métier quoi.
Va à l'usine. T'as oublié le début de saison de Lyon.
Non, j'ai pas oublié.
Bah si, bah je crois.
Bah justement.
Si ils étaient aussi mauvais.
C'est fou de jamais
d'accord.
être d'accord.
Donc, il fallait bien qu'il y ait des gens qui prennent le leader. Non, mais leur rôle
avec l'effectif qu'ils ont.
Le rôle de leader.
Tu penses vraiment que les 6 premiers mois, ils méritaient de galérer
Mais bien sûr, mais ils galéraient. Ils ne gagnaient pas un match. Et c'était la Bérézina. Et à l'arrivée, l'entraîneur, alors le premier puis le deuxième, il prenait les joueurs cadres. Il disait ah, bon, ben, toi, c'est de ta faute.
Je pense que le problème était plus sur le banc de touche.
Aujourd'hui, c'était sorti de la zone rouge. Alors moi, je veux bien que vous me dites, c'est Pierre Sage. D'accord, il a mis des choses en place, magnifique. Moi, je minimise pas ce qu'il a fait. Mais bien sûr que la tête d'affiche, lui qui t'a permis de sortir la tête de l'eau, c'est la Cazette.
Allez, on arrête.
C'est la Cazette dans ses actes et dans ses discours.
Bon, si tu veux. Vous serez pas d'accord. On va taper le deuxième tour des stades.
Si tu l'as pas,
on a plus de café qu'un joueur.
Edouard, il sera là la Cazette dimanche, Edouard.
En tout cas, il va avoir du temps de jeu parce qu'il a simplement, il est simplement revenu hier à l'entraînement et hier et aujourd'hui, il n'a pas fait de séance complète. Donc, on va dire incertain. Au mieux, il jouera
encore
quelques...
incertain. Golovin, son absence, Maxime. Est-ce que ça peut tout changer à la fin de saison monégasque?
Ah aussi, vous allez arrêter avec ça.
Quoi?
Bah avec l'effectif qu'Alex Nice Monaco, si c'est simplement Golovin, ils espèrent être champion en Champions League.
Maxime, vas-y.
C'est le leader.
Manu, respecte le conducteur de l'émission.
Il y a quand même un gros effectif du côté de l'Olympique.
C'est même un des meilleurs joueurs de Ligue 1, Maxime.
Bah oui, bien sûr. S'il passe cette saison, c'est vrai qu'il y a un débat, notamment du côté de Monaco, savoir si, au-delà des stars du Paris Saint-Germain, ce serait peut-être pas le meilleur joueur de Ligue 1, peut-être.
Pas facile à remplacer, du coup.
Pas facile. Surtout que ces dernières semaines, il a aussi pas mal dépanné comme milieu récupérateur à côté d'un Fofana ou d'un Zakaria. Zakaria nous disait d'ailleurs qu'il travaille beaucoup, on dirait pas, mais il court beaucoup, il gratte beaucoup de ballons. C'est un joueur qui, depuis son arrivée, s'est beaucoup étoffé, a beaucoup évolué, a ajouté cette palette-là à son jeu. Comme le disait Manu, évidemment, Hutter a beaucoup d'options pour le remplacer. Il y a Minamino, il y a Kliouch, il y a Benseguir. Il peut aussi s'adapter.
C'est possible,
il
l'a dit tout à l'heure.
Non, c'est certain. Les gars, mais il peut aussi s'adapter. Il y a le retour d'Embolo qui donne un peu plus de profondeur sur le poste d'attaquant et donc peut-être retrouver une association Ben Yedder Balogun. Ça donne aussi pas mal d'options pour cette fin de saison. Ils sont pas inquiets non plus, mais c'est vrai que c'est une grosse perte et il y a pas d'équivalent dans l'effectif. Nous a dit Hutter.
Non mais sérieusement,
mais moi je suis d'accord. Mais ça, Manu, c'est incroyable.
De moi, quoi.
Ah non, non, sans blaguer.
Et Hutter, faut qu'il arrête de se foutre de moi aussi, quoi.
Mais attends, Golovin,
on parle du deuxième meilleur effectif de France. Quoi.
On parle d'un des meilleurs joueurs de Ligue 1.
Bah oui, mais si Golovin était aussi fort que ça, comme vous le dites, ça ferait longtemps qu'on le saurait, quoi. Je veux dire.
Toi, il est pas si fort.
Non, il fait une excellente saison, mais de là à dire que l'avenir et la fin de saison de Monaco dépendraient aussi de l'état de forme de Golovin.
C'est un gros coup
de manquer de respect à tous les joueurs qui sont à côté de lui, qu'il y en a quand même pas mal qui sont bons quand même.
Mais t'as longtemps été dépendant de ta doublette Caio Henrique Golovin et là tu vas te retrouver sans les deux, quoi.
Ouais. Et bah les autres ils doivent se sortir les doigts du cul. Je suis désolé.
Ah d'accord.
Ça.
Ouais.
Allez, bon, on y va. Non.
Même si t'es désolé, ça sert.
Non mais je dis pas là. C'est que, non mais ça commence à m'énerver quand je vois l'effectif de l'AS Monaco, quand je vois le nombre de mecs qui se planquent derrière leurs petits doigts en disant on espère que Golovin va nous sauver la saison. Je veux dire c'est à l'image jusqu'à dit Cacré. Mais changez de club, changez de sport, allez faire du je sais pas quoi. Putain, mais mettez-vous à notre discipline.
Non mais Manu, où je te rejoins si tu veux sur Golovin, c'est que outre le fait qu'il soit très important dans le dispositif de l'entraîneur,
moi, Golovin, à part cette saison, j'ai pas vraiment entendu parler de Golovin. Enfin, je sais pas.
Mais Golovin, il a quand même. Manu,
t'es un excellent joueur. Mais de là à dire que l'avenir de Monaco, la fin de saison dépend de lui.
Calmez-vous. Non, mais surtout que Monaco aujourd'hui a vraiment toutes les cartes en main pour finir là-haut.
Ils ont l'effectif pour.
Maintenant, l'importance de Golovin, oui. Et t'as raison, Maxime, de dire que le côté gauche était le point fort de l'AS Monaco. Malheureusement, cette année, Caio Henrique, il a disparu à cause de sa blessure. Que Golovin, c'est sur courant alternatif aussi, il faut reconnaître.
Merci.
Donc écoute, ils feront avec, ils ont un effectif pour. Je vois pas. Alors, si derrière Monaco doit se cacher derrière la blessure de Golovin pour dire tiens, mais on n'arrivera pas à arracher une place en Ligue des Champions.
Golovin, qu'aucun grand club européen s'est arraché quoi ces dernières années. Je veux dire, non, mais il faut arrêter.
C'est vrai, c'est quoi ma phrase déjà, prendre des lanternes pour des
vessies pour des lanternes.
Voilà, vessies pour des lanternes.
Je l'ai dit bien, malheureusement. Allez, merci, messieurs.
Merci, à la prochaine.
On verra comment
ça se passe. Bon week-end.
Merci, Thibaut.
Monaco est à Brest dimanche à 17h, je vous le rappelle, on remercie Jean Baumel, donc Maxime Tilliette et Édouard G.
Et Manu Petit.
Manu se met dans un état comme ça.
Non, mais parce qu'on parle de la
semaine. Avec une semaine trop compliquée. Je veux dire, trop de fatigue, trop de travail.
Moi, je suis prêt à leur envoyer des cassettes à l'époque, tu vois. On galérait pour jouer les titres, faire des finales de Coupe d'Europe, des finales de Coupe de France. Voilà, donc quand je vois comment ils vivent, eux,
pas à tourner la page.
Non, mais c'est pas que j'arrive pas à tourner la page, c'est que je me dis, mais quand tu joues à l'AS Monaco, tu connais le contexte. Donc à un moment donné, il va falloir quand même eux qui sont tromper sur certains profils.
Est-ce que tu penses qu'ils seraient patriotes?
Et c'est la principauté Monaco, c'est pas la France.
Bah quoi alors?
Elle vient lui dire ici.
Allez, je me sens monégasque.
La 30e journée.
Parle des joueurs. Est-ce qu'ils sont patriotes?
Qui ça? Les monégasques?
Bah les joueurs.
Ah, j'en sais rien, moi.
Allez, la 30e journée de Ligue 1, ça commence ce soir. Nice-Lorient, tous les matchs.
Dire en face, tu vas voir.
Tous les matchs en intégralité. Sur RMC, tout au long du week-end, dans une seconde. Le ça quiz, l'affrontement.
Manu, maintenant.
On Roten, Manu Petit, à tout de suite.
RMC, 18h-20h. Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h45 sur RMC. On est là, on est bien. On finit les deux heures de Roten sans flamme. On finit la semaine, semaine incroyable. Oui, semaine incroyable. Allez-y. Le podcast est déjà disponible. Allez-y, toute la semaine, ça a été des émissions de malades. Et ce soir aussi, parce qu'il y a eu Mehdi Benatia sur la première heure. Oui. Donc je vous conseille d'aller réécouter le podcast. C'était une superbe interview. On est avec Jean-Louis Tour, on est avec Manu Petit. C'est l'heure du quiz.
On y va. Manu, le quiz. Un quart d'heure à tenir.
Il va faire le quiz tout seul ou il est renforcé?
Non, il est renforcé par Thibaut Giangrande.
Ah, il est là. Salut Thibaut.
Ça va?
Salut Thibaut.
Ah oui, toi?
Pleine forme.
Les hommes de la libre antenne, de l'afterlife cette semaine.
Ouais, c'est ça. L'homme qui monte sur RMC. Bon. Ah, tu montes, toi.
Ah bon?
Voilà. Allez, on y va.
Allez, va nous chercher Villas et Oussem.
Contre le reste du monde, saison 3.
En tout cas, c'est lui qui a remplacé Gilbert.
Attends, t'as un peu raté. Refais la blague.
Non, j'ai pas une blague. Je disais que Thibaut dans le métaverse, il a remplacé Gilbert. Donc il est au top. Il a pas besoin
dans le métaverse.
Eh, ouais, mon gars. Eh, mon gars. Ouais, qui c'est qui joue avec nous, les gars?
Ludovic et Ghislain sont là pour gagner une semaine dans une résidence.
Oh, Ghislain, il est là.
Ghislain, cuisinier.
Oh.
Ah oui, non. C'est pas Ghislain.
C'est quoi, Ghislain, ta spécialité?
Ouais, je t'ai dit au téléphone, j'avais dit les tomates farcies, mais t'es jamais venu manger.
Voilà,
c'est la bouillabaisse.
Tu es où, Gisley? Tu es où?
Béli-en-Mer.
Béli-en-Mer.
Ah, Béli-en-Mer, au gros.
Bon, allez, Ludovic, équipe Roten ou reste du monde?
Roten.
Allez, incroyable, t'es pas. Ludovic est pâtissier, Gisley est cuisinier. C'est fou, la vie. Donc, équipe Roten,
s'il y a une question bonne mère, ça va être génial.
Ah ouais, c'est pour eux. Ludo, pour répondre à Jérôme.
Les choux,
allez, super.
Les choux.
Ghislain, avec le reste du monde, on y va.
Bah, faux plat. Allez, on enchaîne. Bien. Question flash. À part Zizou, qui est pressenti pour le poste d'entraîneur au Bayern?
Ralf Rangnick.
Oh oui, Ralf Rangnick. Franchement, bravo. Hein, surtout désolé, de sans se tromper, quoi. Bravo. Ah. C'est Jérôme qui a dit.
Enfin, ouais, non, c'est vrai que Jérôme,
non, du tout. C'est Manu.
Quand on lui souffle pas dans l'oreille, il peut pas répondre.
Ah, il est là.
Non, ça chauffe. Jamais,
Momier. Kik Seti.
T'as pas honte.
Attention, Kik Seti. Joueur, quel joueur de, l'année, de l'OM des années 2000 ne branle pas de substances illégales quand il est enrhumé? Quel joueur de l'OM des années 2000 ne prend pas de substances illégales quand il est enrhumé?
Ok.
Pas mal.
Mais non, c'est pas lui. C'est quand il est enrhumé. Il prend pas de substances illégales quand il est enrhumé.
Zenden, non.
Non, c'est dans, alors il a même il a été en finale de l'Europa League.
Ah oui. C'est bien ce que t'as dit là.
Il a même plutôt marqué les esprits, hein.
Drogba.
Merci de découvrir le chemin.
Oh my god.
Il y en a des plus ou moins, mais là celui-là, bon. Oh, bravo Julien.
Mais c'est quoi ce sur toi?
Moi je peux au moins, tu vois.
Parce que t'es souple. Question, c'est abusé, on enchaîne.
Oh mais moi, c'est abusé, gros.
Quel international français de l'époque de Jérôme à Monaco a joué à l'OM quelques années après?
J'y vais.
Bonne réponse.
Bah oui,
non, il n'y avait pas de jeu de mots.
Mais t'as trouvé quand même.
Il y avait Morientes aussi, mais tu dors, toi.
Il y avait Rodriguez aussi.
Il n'est pas international français.
Ah oui,
pas Morientes. Jusqu'à preuve du contraire. Parce que je veux bien faire des questions pourries, mais à un moment donné, il faut réviser la géo.
J'y étais pas.
Demain, ça marche pas, le casque.
Il marche pas. Personne ne souffle jamais.
Vu qu'il est bon en jeu de mots, on va refaire un jeu de mots.
Ah oui. Ouah, il a un joker. Non, c'est un contre-joker. Il joue pour semaine. Les autres, pour le reste du monde.
Je suis dégoûté, quoi, mais bon.
Kikseti, quel haïtien marseillais est une contraction de la maire de la ville qu'il déteste?
Hidalgo.
Papin.
Oh la putain, gagné. Le papin là, il fait mal. Et c'est une contraction de la maire de la ville.
Oui. De la maire.
La maire, la mairesse, la maire, hein, la maire de la Hidalgo. Ville qu'il déteste.
Bonnard.
Eh ben son nom, c'est une contraction. Go. Comment elle s'appelle la maire de Paris?
Gigo. Bah, Hidalgo.
Hidalgo.
Hidalgo. Mais son nom entier. Comment t'as dit?
Hidal. Hidalgo.
Anne. C'est quoi son nom entier, Bat de Devier?
Anne Hidalgo.
Anne Hidalgo. Mais que tu contractes?
Anno. Anigo.
Anigo.
Anigo. Anigo. Putain, mais sans déconner. Mais vous êtes. Mais nul. Mais nul.
Bravo, Jérôme. Et bravo, Julien, pour la qualité du quiz.
Oh, je te jure.
Mais alors, mais tu sais quoi? Ça, c'est quand on trouve pas. Ça, j'adore. Moi. Anne Hidalgo, tu contractes, ça fait Anigo. Excuse-moi, c'est extrêmement bien trouvé. Et je remercie tous mes auteurs qui sont avec moi.
Jérôme, un coup. Hein.
Kikawège ici.
Il y a 2-2 quand même.
Kikawège. Mais concentre-toi, toi, le gros. Kikawège ici. Enfin. Valenciennes. Sheffield United. Oh,
Sheffield United.
Pas du tout. Olympique de Marseille. Bordeaux.
Bourouchaga.
Rennes. Alors, Valenciennes OM, Bourouchaga, c'est pas sympa. Même Laurent si c'était Robert. Vrai sur un match. Manchester City,
Caen.
Jérôme,
c'est pour
Bordeaux.
Toi.
Ouais.
Galas.
Sommeil. Ah, bon, bravo, bonne réponse, David Sommeil.
Ouais, bah, d'ailleurs, on a une pensée pour lui. Hein.
Qu'est-ce qui lui arrive?
David Sommeil.
Bah oui, David.
Oh, bah attends,
allez, enchaînons, Julien.
Allô. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il n'y a personne?
Non, mais on l'embrasse.
Que qui écoute?
On y va, Ludovic et Ghislain.
Quel défenseur international belge a joué à l'OM dans la finale de 2004?
Guéret.
Non, mais alors, qui écoute? T'es pas auditeur, Manu? Ah, mais ou alors tu rends le salaire?
C'est quoi?
Allô,
c'est
Ralesso?
Van Buiten!
Bonne réponse, belle passe D.
Mais alors, qui a répondu?
Magnifique.
C'est Ludo?
On peut accorder un point chacun.
Bravo, Ludo.
Van.
4-2 pour
le meilleur buteur, c'est jamais le mec qui fait la passe. Jamais. Attention, on va faire un qui les unit. On va prendre, je vais vous donner deux joueurs qui n'ont rien à voir a priori, mais il faut trouver qui les unit. Qu'est-ce qui les unit? Cuadrado et Barthez. Juan Cuadrado et Fabien Barthez, qu'est-ce qui les unit? Il y a un lien avec ce qui se passe à l'OM en ce moment. Cuadrado et Barthez. Ils ont fait un truc, c'est très rare ce qui leur est arrivé. Ils ont vécu chacun un truc qui est
finale de Coupe d'Europe, non? Hein?
Oui.
Expulsé.
Un rouge en finale.
Expulsé. Manu l'a dit. En finale de Coupe d'Europe. Bonne réponse. Non, c'est bravo les deux. Alors, en Ligue des Champions et l'OTAN, Europa League.
C'est ça.
Oh, attention.
En tout cas, Thibaut a bien fait de descendre.
Qui c'est Tidon?
J'ai eu la première réponse.
Qui c'est Tidon?
Il y a longtemps.
C'est qui? Il y a Thibaut? Jean Grand? Non, le vrai? Génial, quelle chance.
Qui c'est Tidon? Je prends un joker.
Oh là là.
Ouah, il a un deuxième joker. Et le joker, c'est Daniel Riolo.
Impossible, il torture un communiste dans sa cave.
Bon, ben alors, c'est Jean-Louis qui va faire Daniel.
Ah oui.
Alors
oui, je suis là.
C'est bon. Premier à sa vallée dans les Alpes en Savoie. Mon deuxième se soutient pour avoir un doctorat. Et Montou a été champion avec l'OM de Deschamps.
Thèse.
Ah non.
Et Montou a été champion quoi?
Ouais, mon premier à sa vallée dans les Alpes en Savoie. Morientes, bonne réponse Morientes. De Jean-Louis. La Morienne et de Thèse. Ouh. Question à 2 points.
Oh.
Tu joues toi?
C'est là, c'est maintenant. D'accord. Là, je suis venu pour les questions à 2 points.
Alors justement, comme c'est une question à 2 points, c'est qui a quoi dans le dos? Pour l'Olympique magnifique, championne de France 2010, à numéro 10.
Lucho, Batles.
Coné.
Lucho González.
Non.
Valbuena.
Cherou.
Ah non, pas c'est. Valbuena. Celui qui est parti
Gignac. Mexique.
Non.
Comment il s'appelle?
Pas Gignac.
Tovin. Non, il était pas
là. Non.
Numéro 10.
International français. International français.
Cherou.
International français.
International.
Aloudira.
international français.
Bah, il dira international français.
Hein. Putain, oui, mais c'est pas lui, c'est juste pour dire international français.
Ah, Rémi.
Allez, là, il y a deux points. Comment t'as dit ?
Loïc Rémy.
Non. Loïc Rémy, c'est pas ça. Je vais vous aider, il est pas droitier. Il est pas droitier.
Il est gaucher.
Ah, Pedros.
Pedros.
Non,
Pedros.
Il est pas droitier, il est gaucher.
Waddle. Non, c'est pas Waddle.
Ben Arfa.
C'est pas Mac. Ben Arfa.
Incroyable, à 20 secondes de la fin, 5 partout, balle de match.
Balle de match. Attention, Geek s'est dit, attention, celui-là, il est extrêmement pourri.
Ah oui, parce que c'est d'accord.
Quel joueur d'Aston Villa ne se fait payer qu'en liquide ?
Cash.
Jérôme Rotel, yeah, de justesse !
Oh, incroyable.
Bravo Jérôme.
Bon, alors, pourri ta question.
Ouh. Tout le monde est gros.
Merci.
Victoire de Ludovic qui remporte la semaine de vacances. Bravo Ludo.
Rotten contre le reste du monde sur RMC avec Lagrange Vacances. Mer, montagne, campagne. Trouvez votre résidence 3 ou 4 étoiles pour les vacances.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.